en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Quels furent à l'Académie française les prédécesseurs de Jean Clerc, qui y fut élu le 22 mai 2008 ? Nous poursuivons avec Mireille Pastoureau, directeur et conservateur de la Bibliothèque de l'Institut de France, notre série sur l'histoire des fauteuils de l'Académie française. Et dans cette émission, c'est le 39e fauteuil qui nous intéresse tout particulièrement et qui fut occupé par des personnalités fort diverses, comme c'est d'ailleurs le cas pour tous les fauteuils. Bonjour Mireille Pastoureau.
Bonjour.
Jean Clerc est le 15e titulaire de ce fauteuil. Autrement dit, c'est un fauteuil où il y a eu peu de titulaires, donc on peut assurer Monsieur Clerc d'une certaine longévité.
Tout à fait.
Alors commençons par le tout premier de ces titulaires, donc au début de la création de l'Académie française, sur ce fauteuil 39 qui s'installe.
C'est Louis Giry qui était avocat, traducteur et homme de lettres. Et Louis Giry fit partie du premier groupe de lettrés qui préfigura l'Académie. Il s'agit d'un groupe de particuliers qui, dès 1629, se réunissaient dans Paris. Et comme ils étaient dans divers endroits de Paris, ils avaient des difficultés à aller se chercher les uns les autres. Et ils ont résolu de se rencontrer un jour par semaine chez l'un d'eux. Et c'est chez Valentin Conrart que ce groupe s'est réuni. Et donc Giry fit partie du premier cercle de ces pré-académiciens.
Alors c'était surtout un traducteur des œuvres des pères de l'Église ou des premiers grands écrivains du christianisme.
Tout à fait. Et Richelieu avait admiré sa traduction de l'apologétique de Tertullien. Et vous savez que Richelieu avait un rôle déterminant dans le choix des premiers académiciens.
Je veux bien vous croire.
Et Vaugelas l'avait complimenté pour son éloquence, disant qu'il savait transformer les rochers et les épines de l'auteur latin Tertullien en jardins délicieux.
Bon, on lui fait confiance. Alors après ce latiniste éminent, nous avons toute une série d'abbés qui s'installent sur ce fauteuil numéro 39, à commencer par l'abbé Claude Boyer, qui a été élu en 1666. Qui était Claude Boyer ?
Alors donc Claude Boyer était homme d'église, mais en même temps, et c'était tout à fait possible à l'époque, auteur dramatique et poète. Il avait acquis le goût du théâtre lors de ses études chez les pères jésuites d'Albi, qui était sa ville natale.
Et alors, il a écrit des pièces ?
Voilà, il a trouvé des protecteurs, s'était installé à Paris, il a fréquenté les salons, et il a acquis une réputation d'abbé galant, et il a dédié sa première pièce à la fameuse marquise de Rambouillet, qui était une tragédie qui s'appelait la Porcie romaine, qui a été jouée par la troupe royale à l'hôtel de Bourgogne. Et l'Académie a applaudi cette pièce. L'influent Jean Chapelain a déclaré alors que seul Corneille dépassait Boyer comme dramaturge.
Ça continue.
Voilà.
Parce que Boyer est un petit peu oublié et pourtant, vous nous dites qu'il est auteur de 22 tragédies. Diable, je ne saurais même pas citer le titre de l'une d'entre elles,
voilà.
Alors on va quand même en citer une.
Oui, 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 La Sœur Généreuse, qui est une tragicomédie, Aristodème, Tiridate, Ulysse dans l'île de Circé, Clotilde, La mort de Démétrius, Polycrite, etc. Donc beaucoup de thèmes inspirés de l'Antiquité romaine.
Ce qui prouve la grande familiarité des hommes du XVIIe avec la mythologie, mais beaucoup plus approfondie qu'à notre
époque. Exactement, et avec la langue latine, ce qu'a montré la querelle des anciens et des modernes, puisque les anciens voulaient naturellement défendre le latin et le grec et continuer à être à l'aise dans ces langues autant que dans la langue française.
Alors dans ces tragédies de Claude Boyer, de l'abbé Claude Boyer, il y en a une, Jephté, qui avait été écrite à la demande de Madame de Maintenon.
Exactement, qui pour instruire les jeunes filles de Saint-Cyr, dont elle avait la garde, commandait, et 2 ans après l'Esther de Racine, elle a commandé une tragédie à Boyer, qui était considérée comme un très grand dramaturge.
Et vous avez dans votre bibliothèque, donc, un exemplaire de cet ouvrage gravé,
voilà,
magnifique.
Tout à fait, très belle édition de 1692. Vous savez que la bibliothèque de l'Institut a pour mission de recueillir toutes les œuvres des académiciens passé et présent. Et elle a donc des collections anciennes et modernes de grande importance.
Alors cet abbé Boyer, quand même, parce qu'on l'aura découvert au moins dans cette émission, a écrit, c'était un abbé, je le rappelle, mais un abbé de cour, a écrit dans sa préface au caractère de l'amour profane, parce qu'il s'en mêlait de l'amour profane, il a écrit quelque chose d'assez amusant sur l'Académie. Alors il dit que ces caractères de l'amour profane, cet ouvrage fut lu dans l'Académie française à la réception d'un académicien devant une illustre et nombreuse assemblée. Durant cette lecture, il s'éleva un petit murmure dont je ne pus d'abord deviner la cause. Au seul nom d'amour, le censeur, avec un grand C, jaloux, impatient ou malin, se révolta et entraîna avec lui une partie de l'assemblée. On me reprochait d'avoir travaillé sur une matière peu convenable à mon âge et que dans la description des caractères de l'amour, j'étais entré dans un détail indigne de l'attention d'un grand nombre de personnes dont le rang, la dignité et le mérite demandaient des lectures plus sérieuses sur des matières plus importantes. Ce reproche bazardé avec précipitation me fit comprendre combien l'esprit de l'homme est hardi à juger et prompt à condamner. Ceux qui liront mon ouvrage me feront justice. Mais on ne sait pas de quel détail il a parlé.
Voilà, oui.
Il faudra aller lire ses œuvres.
Ça semble bien anodin de nos jours.
Je le crains. Alors après cet abbé, nous avons encore trois autres abbés sur ce fauteuil. Et pourtant, il faut le rappeler, Mireille Pastoureau, ça n'est pas héréditaire. Il n'y a pas de fauteuil réservé aux hommes d'église.
Exactement. Il est de tradition qu'il y ait toujours des hommes d'église membres de l'Académie, mais ils ne siègent pas tous au même fauteuil. De sorte qu'actuellement, nous avons Jean Clerc qui succède à de nombreux abbés et que, pour parler d'aujourd'hui, Monseigneur Lustiger a été remplacé par un laïc, ce qui ne signifie pas qu'on n'a pas trouvé d'ecclésiastique. Monseigneur d'Agence a bien été élu, mais est installé sur un autre fauteuil.
Sur le numéro
1. Il n'y a pas
1.
De fauteuil réservé.
Alors là, trois abbés à la suite. Alors on va dire un tout petit mot de chacun d'eux. L'abbé Charles-Claude Genest, 1639-1719.
Oui, alors sa vie ressemble à un roman d'aventure que j'ai découvert en préparant l'exposition parce qu'il n'est plus beaucoup connu. C'était le fils d'une sage-femme et il avait seulement appris à lire et à écrire.
Comme quoi on peut finir à l'Académie en étant pas né dans la noblesse.
Exactement, même sous l'Ancien Régime, on voit des cas tout à fait étonnants. Donc il s'est engagé sur un vaisseau qui partait pour les Indes. Mais dès qu'ils eurent quitté le port de La Rochelle, ils furent capturés par un navire anglais. Ce futur abbé est transporté à Londres, où il est peut-être déjà abbé. Il est alors engagé comme précepteur des enfants d'un noble britannique qui lui apprend l'équitation. Et là, un écuyer du duc de Nevers, donc un Français, vient en Angleterre acheter des chevaux, s'émerveille des connaissances équestres de l'abbé Genest, le ramène en France, le présente à son maître, qui encourage ses talents poétiques. Et Genest prend part aux campagnes militaires du duc, compose des poésies à la gloire des victoires royales et se trouve récompensé. Et c'est à ce moment-là qu'il troque l'épée contre la soutane. Il passe un peu de temps à Rome, il est soutenu par Bossuet et il devient le précepteur de la fille de Louis XIV et de Madame de Montespan, Mademoiselle de Blois. Il devient l'aumônier de la même demoiselle et homme de cour, réputé pour la fiabilité de ses manières. Il devient familier de grands personnages et le voilà élu à l'Académie française en 1698.
Belle carrière que celle de cet abbé Charles-Claude Genest. Alors un autre abbé, Jean-Baptiste Dubos. Doit-on prononcer le S, Dubos ou Dubos? Je pense du Boss, peut-être.
Oui, il était de Beauvais, du nord de la France. Voilà, il avait étudié la théologie, le droit. Et lui est venu à l'Académie par la diplomatie. Il y a toute une part des académiciens qui étaient des diplomates, c'est son cas. Il était entré dans les bureaux des affaires étrangères. On lui avait confié des missions secrètes auprès de diverses cours d'Europe. Nous sommes pendant la Régence, dans les années 1720. Et donc, il a pris une part importante aux négociations de traités à la fin du règne de Louis XIV et au moment de la Régence. Et ensuite, il a préféré abandonner la politique pour s'en consacrer aux lettres et à l'histoire. Il avait donc tout à fait sa place à l'Académie.
Alors, je dis quand même là, cette petite phrase que vous citez à la fin de sa petite notice. Il a tenté de démontrer que les Francs, quand ils pénétrèrent en Gaule, ont pénétré non pas en conquérant, mais à l'invite des Gaulois. Comme si les Gaulois avaient invité les Francs à venir. Bon, voilà, thèse que Montesquieu a réfutée dans son Esprit
voilà,
des lois.
Oui, voilà, on est au début des démarches historiques,
oui,
donc il n'y a
ça,
pas encore vraiment d'histoire scientifique. Il y a beaucoup
de thèses,
de
fait.
Thèses,
de thèses
exactement,
un
d'hypothèses. Voilà,
oui. D'hypothèses. Alors, encore un abbé, après celui-ci, c'est l'abbé Jean-François Durenel, 1692-1761, Et lui, encore un homme d'église, mais plutôt homme de lettres, lui.
Exactement. Il était aussi membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'était un traducteur. On voit l'importance des traducteurs à l'Académie. Et déjà versé dans les langues grecques et latines, il étudia aussi les langues vivantes, l'anglais, l'italien et l'espagnol. C'était quelqu'un d'acharné dans l'étude, nous dit-on. Voilà. Et il avait été formé par les pères jésuites, lui aussi. On voit énormément d'académiciens formés par les jésuites. Et c'est son oncle qui était un évêque de Boulogne, un évêque janséniste, qui l'avait appuyé pour enseigner au collège des oratoriens. Et donc sa carrière ainsi s'est faite petit à petit.
Maintenant on l'appelle Durenel, hein, c'est l'abbé
voilà.
Durenel on dit.
L'abbé Durenel, il faisait des très beaux sermons. Il a été abbé dans le diocèse de Reims, de l'abbaye de Notre-Dame des Sept Fontaines. Et il est connu aussi pour ses traductions. Voltaire a collaboré avec lui pour des travaux et voilà, l'appréciait voilà, et l'a appuyé à l'Académie.
Alors après ce personnage numéro 5, cinquième titulaire de ce fauteuil 39, il y en a un sixième qui lui n'était pas homme d'église mais avocat, c'est Bernard-Joseph Saurin. Alors ce Saurin était fils d'un pasteur.
Oui, converti au catholicisme, Joseph Saurin qui était mathématicien et membre de l'Académie des sciences. Et Joseph Saurin aurait souhaité que son fils se destine aux mathématiques, mais...
Comme tous les fils, il a fait autrement
que son
père.
Il a fait du droit, exactement. Il est devenu avocat. Et ce qui est très amusant à l'époque, c'est qu'à près de 40 ans, qui était considéré comme un âge mûr au XVIIIe siècle, il a abandonné le barreau et s'est consacré définitivement à sa véritable vocation, le théâtre.
Donc il a fait ce qu'il aimait. Alors on lui doit une pièce à succès, paraît-il, intitulée Spartacus. On ne sait pas si c'est ça qui a inspiré les cinéastes actuels, mais enfin, au moins il y a eu celle-là. Et sa pièce, Les mœurs du temps, vous dites qu'elles furent très applaudies à la Comédie française.
Oui, tout à fait. Et à l'époque, on le considérait comme le seul auteur de théâtre ayant réussi à la fois dans la tragédie, la comédie et le drame. Il aimait le théâtre sous tous ses aspects.
Ami de Voltaire, de Saint-Lambert, de Montesquieu, de Turgot, d'Helvétius, c'est tout de même un personnage qui mérite qu'on parle de lui. Bernard-Joseph Saurin. Donc ce sixième titulaire. Et avant d'aborder le septième, qui lui est un personnage très connu, juste pour vous laisser en haleine quelques secondes, on écoute quelques notes de musique et on se retrouve tout de suite après. Mireille Pastoureau dans cette émission sur l'histoire du 39e fauteuil de l'Académie française. Alors, le personnage numéro 7, le 7e titulaire, c'est Condorcet. Lui, c'est véritablement un personnage connu, célèbre.
Absolument, oui, oui. Mythique même, je dirais. C'est une personnalité énorme et je ne suis pas très qualifiée pour en parler, mais je vais essayer tout de même. Donc, d'abord, une vocation de mathématicien, un goût précoce pour l'abstraction. Il fait un essai sur le calcul intégral et ensuite, il se lie avec D'Alembert, qu'il appuiera pour entrer à l'Académie. Il se lie également avec l'économiste Turgot, avec lequel il travaille. Et lorsque Turgot devient ministre, Condorcet est appelé auprès de lui et devient notamment inspecteur des monnaies. Il réside à l'Hôtel des Monnaies, qui est à côté de l'Institut actuellement. Il œuvre pour l'unification des poids, mesures et monnaies. Et lorsque la Révolution survient, il abandonne en quelque sorte tous ses travaux et il se consacre passionnément à la politique, il devient député, il a une activité militante pour la défense des droits de l'homme, les droits des femmes, les droits des Noirs, il soutient la République des États-Unis d'Amérique, il a des projets de réforme dans tout domaine administratif, économique. Mais malheureusement, son parti, qui est celui des Girondins, se fissure, il perd ses amis, et lorsque les Jacobins, en 1793, prennent le pouvoir, il se trouve condamné pour trahison, sans doute injustement, mais à l'époque, on sait comment cela se passait. Il se cache pendant 9 mois, pendant lesquels il écrit son ouvrage très célèbre, l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Il se cache dans Paris, mais il est sur le point d'être découvert. Donc il se sauve et à Clamart, quelques jours après, on le dévoile et on l'emprisonne et on le retrouve 2 jours plus tard, mort dans sa cellule.
Peut-être d'apoplexie, nous dit le professeur Yves Pouliquin qui a abordé ce sujet.
Parce qu'on s'était demandé si Condorcet s'était empoisonné ou bien si sa mort était naturelle. Et le professeur Pouliquin pense qu'il s'agit d'une apoplexie, car on l'a retrouvé étendu sur le sol. Si c'était empoisonné, il aurait été allongé sur son lit et il avait été fouillé avant d'être emprisonné. Donc on pense qu'il n'avait pas pu conserver du poison sur lui.
Alors qu'avez-vous de Condorcet dans le fond de la bibliothèque de l'Institut ?
Une grande richesse de notre bibliothèque est le fond Condorcet, car nous conservons la majorité des manuscrits qu'il a laissés, qui ont été donnés à la bibliothèque par sa fille Eliza O'Connor, qui avait épousé un officier d'origine irlandaise et qui a donc fait don à l'Académie des sciences en 1853 de ce magnifique fond qui se compose de textes manuscrits de Condorcet, de papiers littéraires, philosophiques, scientifiques. Il avait été secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et également de sa correspondance. Et ce fond contient aussi les papiers de D'Alembert, car Condorcet était le légataire universel de D'Alembert. C'est donc un fond magnifique que Madame Elisabeth Badinter a bien étudié et sur lequel travaille une équipe de recherche pour éditer justement les œuvres de Condorcet.
Il y a encore beaucoup de travail.
Il y a beaucoup de travail car ce fond naturellement était un petit peu en désordre puisque Condorcet s'était caché, sa famille a hérité des papiers mais il y a eu des bouleversements, donc il faut essayer de retrouver l'ordre logique de tous ces papiers. Tout n'est pas daté, donc il y a un gros travail d'analyse, de transcription et d'étude qui est en cours.
Juste, si vous me le permettez, Mireille Passoureau, je voudrais lire une petite phrase qui est tirée des Réflexions sur l'esclavage des nègres. C'est un ouvrage de Condorcet paru en 1781. Il dit « Mes amis, quoique je ne sois pas de la même couleur de peau que vous, je vous ai toujours regardé comme mes frères. Vos tyrans me reprocheront de ne dire que des choses communes et de n'avoir que des idées chimériques. En effet, rien n'est plus commun que les maximes de l'humanité et de la justice. Rien n'est plus chimérique que de proposer aux hommes d'y conformer leur conduite. » Donc déjà, on voit naître les droits de l'homme, ne serait-ce que dans ces paroles de Condorcet. Alors après Condorcet, il y a 2 personnages un petit peu oubliés encore. L'abbé, de nouveau un abbé, l'abbé Noël Gabriel Luce Villard, qui, lui, a au moins l'intérêt d'avoir contribué à la création de l'Institut.
Exactement. Alors là, nous sommes en pleine révolution, tout à fait, et l'abbé Villard a commencé par être abbé, recteur du collège de la Flèche, il avait été professeur également. C'était un abbé révolutionnaire. Il a prêté serment à la constitution civile du clergé et donc les habitants l'ont choisi en Mayenne comme évêque constitutionnel du département de la Mayenne. Donc il a été élu ensuite à la convention, il a quitté Laval pour Paris et là il a vu qu'il devait démissionner de sa charge d'évêque. C'est ce qu'il a fait en 1798. Il a vu que ce n'était pas compatible. Et entre-temps, il a œuvré à la création de l'Institut national en 1795. Il a été nommé membre dans la section de grammaire, dans la classe de littérature et beaux-arts, puisque les académies ont été supprimées en 1793 et remplacées en quelque sorte par cet institut national qui est maintenant l'Institut de France.
Donc il a aussi beaucoup œuvré à la commission du dictionnaire de l'Académie française.
Voilà, oui.
Alors l'autre abbé, encore l'autre homme d'église, c'est l'abbé de Falaise, qui lui a été élu en 1826 et sur lequel on n'a pas peut-être beaucoup de choses à dire.
Non, c'est intéressant de voir qu'il vient de Brive. Il était élevé chez les pères de la doctrine chrétienne et il est venu à Paris pour étudier la théologie. Et il s'est fait ordonner prêtre par un évêque proscrit. Donc lui, il n'a pas voulu prêter serment à la constitution civile. Il a été condamné à la déportation. Et il a passé 11 mois sur les pontons, vous savez, où l'on avait entassé des prêtres condamnés.
Oui.
Avec 800 prêtres, il y en a 600 qui moururent. Donc,
horrible histoire.
Et après, il a été rendu à la liberté et il a entamé une carrière de critique littéraire au Journal des débats, au Mercure de France. Il est devenu conservateur de la bibliothèque Mazarine. Donc, il était nourri des traditions classiques. Il était assez conservateur sur le plan littéraire.
Et lui a succédé, alors, Désiré Nisard, qui lui est plutôt un critique, un essayiste, un auteur de l'histoire de la littérature française, qui a fait une belle carrière, ce Nisard.
Et tout aussi conservateur que l'abbé de Falaise. C'est-à-dire que c'était un adversaire passionné des romantiques, au point que C'était un petit peu caricatural et il plaçait l'idéal du génie français au XVIIe siècle dans une période assez courte comprise entre Corneille et Racine.
Bon, d'accord. En dehors de cela, rien. Alors, lui succède à Eugène Melchior de Vogüé. Alors, chez les deux Vogüé, il y a des gens très célèbres. Melchior de Vogüé lui-même est célèbre, mais
exactement.
Là, c'est le neveu.
C'est le neveu, et l'oncle et le neveu étaient tous les deux diplomates et se sont retrouvés ensemble à l'Académie française. Ils ont été élus, voilà, ils se sont côtoyés à l'Académie pendant quelques années. Il s'agit d'Eugène Melchior, le neveu, qui était secrétaire d'ambassade à Saint-Pétersbourg et il a épousé la fille d'un général russe, le général Annenkov, qui avait créé le chemin de fer transcaucasien.
Alors on lui doit à lui au moins une chose intéressante, c'est un ouvrage qui s'appelle Le roman russe et il a fait découvrir à Paris la littérature russe.
Voilà, exactement. Alors que les Français ne connaissaient que Gogol et Tourguenieff, c'est ce livre d'Eugène Melchior de Vogüé qui leur a fait découvrir Tolstoï et Dostoïevski. Et son livre eut un immense succès et a créé une mode pour tout ce qui était à la russe. Fin du 19e siècle, nous sommes en 1886. Oui.
Après lui, le titulaire du fauteuil est très connu. Alors lui, c'est Henri de Régnier, élu à l'Académie française en 1911. C'est un poète, mais c'est aussi un homme d'essais, de romans, de critiques littéraires.
Tout à fait, qui avait épousé Marie de Régnier, Marie de Hérédia, la fille de José Maria de Hérédia. Et la bibliothèque de l'Institut a la grande chance de conserver également un fonds de manuscrits d'Henri de Régnier et de la famille Hérédia, qui a été donné en deux fois. Une première partie à la mort d'Henri de Régnier en 1936. Sa veuve Marie a effectué un premier versement de correspondance et d'un ensemble de papiers. Et à sa mort à elle, en 1963, elle a également légué tous les manuscrits non reliés et les correspondances qui restaient à son domicile. Et pour le journal d'Henri de Régnier, le journal manuscrit qui est très intéressant. Il y a eu un partage entre la Bibliothèque nationale et la Bibliothèque de l'Institut. Nous en avons la moitié.
Alors, vous avez au moins le passeport. Et le passeport d'Henri de Régnier, c'est merveilleux.
Oui,
ça nous permet de le décrire physiquement.
Dans ces fonds de manuscrits, voilà, il y a des documents très divers. Donc, nous avons le passeport d'Henri de Régnier en 1918. Donc, il était né en 64. Il avait 53 ans. Taille 1m80, cheveux gris, front découvert, sourcils gris, yeux bleus, nez moyen, bouche moyenne, barbe, moustache grise, menton rond, visage ovale, teint clair, signe particulier, porte monocle.
Très chic quand même Henri de Régnier, très chic. En tout cas dans son journal intime dont vous parliez justement, il raconte une séance à l'Académie. Alors ça c'est amusant, on va peut-être le lire ça au moins. Jeudi 12 janvier 1928, j'aime beaucoup à l'Académie les séances de la commission du dictionnaire qui se tiennent le jeudi à 2h dans la salle 6. C'est un simple local, deux bibliothèques remplies de vieux tomes de linguistique et de lexique, une sorte de classeur surmonté d'un buste d'homme en terre cuite. Au mur, le portrait gravé du tsar Nicolas II, de la tsarine et du grand-duc Constantin. Au milieu de la pièce, une grande table carrée où sont déposés les fascicules du travail en cours. C'est Rebellio, secrétaire de la commission, qui tient la plume, lit les articles et propose les modifications. Autour de la table, s'assoit Bourget, Lavedan, Bazin, Bédier, Doumic et moi. Lavedan est complètement sourd, Bazin à peu près, et Bourget absent la plupart du temps, Rebellio ressemble vaguement à Rostand, Doumig tire sur sa barbe, Bédier regarde les mots d'un air menaçant et sévère, l'heure passe et la séance est levée. C'est assez amusant à écouter.
Oui.
Alors, Mireille Pastoureau, donc, après cet Henri de Régnier, c'est un auteur dont l'écriture est très élégante, c'est Jacques de Lacretelle, qui a été élu en 1936 et qui est resté très longtemps sur un fauteuil académique, plus de 40 ans, 48 ans.
Tout à fait.
Donc, il est mort en 1985. Que lui doit-on comme œuvre?
Alors, donc, son grand roman, Zilbermann, qui est très connu, bien sûr, que nous évoquons dans l'exposition. Nous notons qu'il avait été encouragé dans la voie littéraire par un de ses professeurs au lycée Janson de Sailly, qui était André Belsor, qu'il a retrouvé plus tard sous la coupole, puisque André Belsor fut aussi académicien. Donc il a raconté ses débuts d'écrivain et c'est assez intéressant parce qu'il dit que c'est seulement à l'âge de 25 ans qu'il a commencé à griffonner et à jeter les bases d'un roman. Et ce qui nous a intéressé aussi beaucoup chez Lacretelle, c'est qu'il était un grand bibliophile et dans nos expositions, nous essayons de mettre en valeur et de connaître les motifs des grands bibliophiles. Et Jacques de Lacretelle a des lignes vraiment très savoureuses.
Bah, lisez-les nous.
Il explique que le goût du livre rare était chez lui un appétit naturel et que dès ses années de lycée, il s'était constitué une belle bibliothèque grâce à ses achats chez les bouquinistes. Mais il raconte, je cite, « Quand vint ma 16e année, d'autres désirs réduisirent à rien les désirs du bibliophile. Il me fallut chercher à aimer et à être aimé. » Il me fallut aller au palais de glace, dans les bars, aux courses. Comment me procurer de l'argent? Un à un, tous mes livres y passèrent. Vais-je avouer que j'allais jusqu'à me défaire de livres sur lesquels des auteurs, cédant à mes impudentes prières d'écolier, avaient inscrit des dédicaces?
Il vendait ses livres.
Il a vendu ses livres à ses ans.
Les jeunes filles.
Mais plus tard, une nouvelle collection fut constituée. Et c'est amusant parce qu'il nous raconte que il soumettait ses conquêtes féminines à ce qu'il appelait l'épreuve de la bibliothèque.
Alors, c'était quoi l'épreuve de la
bibliothèque? Je cite Jacques de Lacretelle. « Aimez-vous les livres? Voulez-vous voir les miens? Et si elle acquiesce mollement, je pressens bien que, une fois mon désir satisfait, aucun attachement durable ne pourra subsister entre nous. Mais si, au contraire, je sens chez elle de la curiosité, un goût encore tâtonnant que je pourrais affermir, alors j'entrevois sur le champ la possibilité d'une grande liaison, de voyages de plus longtemps rêvés, de dons infinis. J'entrevois le sacrifice de mon indépendance. » Et alors il finit en disant « Il est un autre cas où un livre peut être complice de l'amour, c'est lorsqu'il prépare un raccommodement. Tant qu'il y a entre deux amants désunis un livre prêté, la rupture n'est pas définitive, qu'il le sache bien. » Et alors il raconte, après j'ai pas mis dans le catalogue, l'amoureux qui a rompu mais qui se dit « Qu'est-ce qu'elle fait de mon livre? Est-ce qu'elle le regarde? Où l'a-t-elle mis ?» Et qui finalement n'en peut plus et prend contact pour savoir si ce livre peut être récupéré. Et comme ça, les deux amants désunis se rabibochent.
Alors, avant-dernier titulaire de ce fauteuil numéro 39, avant Jean Clerc qui en est l'actuel titulaire, c'est Bertrand Poirot Delpech, que l'on connaît évidemment comme l'ancien directeur du journal Le Monde.
Voilà, qui a longtemps tenu une chronique hebdomadaire au Monde, Monde des Livres, et puis sa chronique Diagonale, et que nous avons bien connue à la bibliothèque, qui nous donnait tous ses livres avec des dédicaces. Et nous avons maintenant reçu, par don de ses enfants, nous avons reçu les archives personnelles que, depuis Bertrand Poirot Delpech, qui ont été données à la bibliothèque de l'Institut.
Et qui sont en cours de...
De classement, qui pourront être communiquées aux chercheurs, qui feront des travaux. Et je dois dire que c'est un fonds très intéressant, qui servira à faire des études originales.
Alors Bertrand Poirot Delpech, lui aussi, a eu une jolie petite phrase sur l'Académie. Alors, on ne va pas manquer cette opportunité de vous la citer. Elle est extraite de son Théâtre d'ombre, de son journal de l'année 1997. Il n'est pas étonnant que l'Académie maintienne jeune. C'est un projet d'enfant qui se réalise. L'affection qui unit les membres les moins faits pour fraterniser tient à ce que nous partageons un même sentiment singulier, par définition exclusif, le bonheur d'en être, fait du soulagement de n'être plus candidat. Plus sérieusement, nous témoignons de ce que le langage permet les échanges entre disciplines et sensibilités les plus éloignées. C'est une jolie définition de l'Académie française. Merci Mireille Pastoureau. Donc je rappelle que cette histoire des fauteuils, nous la devons à vos recherches et à vos travaux, et que nous avons déjà pour Canal Académie 6 autres histoires. Celle-ci est la 7e. La première histoire, c'est le fauteuil numéro 1 occupé par Monseigneur Claude d'Agens, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Le 19e fauteuil par Jean-Claude Dabadie. Le 24e par Max Gallo. Le 25e par Dominique Fernandez. Le 36e par Philippe Beaussant. Et le 37e par René Girard. Vous voyez, nous n'en sommes pas encore tout à fait à 40, mais nous avons bon espoir d'y arriver. À bientôt, merci.
Au revoir.